Ce matin, je voudrais m'arrêter sur une lecture qu'on fait d'habitude à Noël. Mais c'est Pâques. Non, mais on va lire ce passage. On le lit souvent à la période de Noël. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter sur ces versets. C'est dans Luc au chapitre 2, les versets 25 à 35. Luc au chapitre 2, les versets 25 à 35. Il est dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Voilà pour ce matin. Quand je lis ce texte, ces quelques versets, je pense tout le temps à un collègue. Ce verset 30 qui dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Un jour, un collègue et moi, on était à l'usine. Voilà que la journée était terminée, on fait sa douche. Lui, il était à droite, moi j'étais à gauche. Bon, vous savez bien que je ne sais pas bien chanter, mais je chantais une chanson qu'on connaît bien. « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Et je chantais ça, et mon collègue, à un moment donné, il me dit « Gino, si t'arrêtes pas de chanter, tu le verras tout de suite, Jésus. » J'ai arrêté de chanter. Et je lui ai demandé, parce que je chante mal ou parce que le chant te plaît pas? Et il a rigolé. Ce matin, je voudrais vraiment m'arrêter sur ce texte. Siméon, il n'y a que Luc qui en parle. Il vivait certainement à Jérusalem une personne âgée, juste et pieux, qui respectait Dieu. Siméon attendait le Messie. Mais ce matin, je voudrais pas m'arrêter sur ça. Je voudrais m'arrêter sur le verset 35. Mais juste une parole avant le verset 34. Nous voyons Siméon qui bénit Joseph et Marie. Mais il dit à Marie, sa mère, apparemment que Joseph ne sera pas là pour assister tout le ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit à Marie, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et on sait bien sûr, avec la suite du Nouveau Testament, la plupart n'écoutaient pas Jésus. La plupart, c'était pour la chute et la plupart pour le relèvement. Et puis, Siméon dit dans ce verset 35, et c'est là que je voudrais qu'on puisse s'arrêter ce matin. Il dit à Marie, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. L'âme ou, bien sûr, le cœur. C'est vraiment plus la même chanson qu'au début du verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration ce qu'on disait de lui. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Voilà que Marie va connaître une douleur dans son âme, dans son cœur, qui transperce l'âme et le cœur. Une bénédiction qui est une bénédiction, mes frères et sœurs, de réconfort. Et dans ce réconfort, il y a l'espérance. Et dans l'espérance, il y a le bientôt. Marie, tu vas connaître des moments difficiles dans ta vie. Tu vas voir Jésus-Christ, il sera rejeté par son propre peuple. Jésus-Christ sera rejeté par ses demi-frères. Puis tu vas voir Jésus-Christ sur la croix en train de souffrir et mourir. Il a fallu, bien sûr, que ça s'accomplisse après une trentaine d'années. Siméon prophétise ce qui va se passer dans le cœur de Marie. Son âme à Marie sera transpercée par une épée. C'est quoi une épée? C'est une arme qui était la plus utilisée dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Elle servait à battre et à transpercer l'adversaire. L'épée était le symbole de la guerre et de la vengeance. Mais l'épée est également le symbole de la parole de Dieu. Marie sera transpercée par l'épée dans son âme, dans son cœur. Il y aura de la souffrance, de la douleur dans son cœur, dans son âme. Mais dans ce cœur, dans son âme, il va avoir du réconfort, de l'espérance et du bientôt. Cette épée est une épée à double tranchant. Il y a la souffrance. Et dans cette souffrance, on veut de la vengeance. On veut la guerre. Mais Marie va connaître le réconfort, l'espérance et le bientôt. Et je sais que dans cette église, il y a des femmes, des maris. Je ne sais pas comment je pourrais dire aussi pour les hommes. Il y a des maris qui ont été transpercés par cette épée, dans leur âme, dans leur cœur. Je ne voudrais pas rappeler les noms, et il y a beaucoup de noms. Je ne voudrais pas les rappeler pour qu'on puisse encore souffrir. Mais juste nous rappeler qu'il y a cette parole qui vient dans notre cœur, qui est le réconfort, l'espérance et le bientôt. Ce n'est pas seulement le deuil qui nous transperce le cœur, l'âme, mais bien sûr aussi les maladies qui transpercent notre cœur quand on vous annonce telle et telle maladie. Et également, bien sûr, quand nous sommes déçus de l'un ou de l'autre qui nous a fait tellement du mal, Elle nous transperce le cœur et l'âme. Et il y a la souffrance et la douleur. On voudrait la vengeance avec une épée et faire la guerre. Mais le Seigneur nous enseigne qu'il y a le réconfort, l'espérance et le bientôt. Alors, cela n'arrive pas seulement aux croyants, mais aussi aux non-croyants. On peut être beau, riche, pauvre, intelligent, homme, femme. Ça nous arrive. J'étais avec un collègue il y a 2 semaines d'ici, et il me disait qu'il devait retourner chez lui parce qu'il devait aller au funérarium. Et il me dit, j'ai un ami qui est décédé, 41 ans, rupture d'anévrisme. Il laisse sa femme et ses 2 enfants. Une épée qui a transpercé l'âme de cette femme et de ses 2 enfants. Un petit cousin, 23 ans, qui part en vacances et qu'il décède en vacances. Ma cousine, une épée qui a transpercé son cœur, son âme, ainsi que toute la famille. Mais je dirais, il y a une différence, et une grande différence, entre le croyant et le non-croyant. On peut regarder Siméon, béni Joseph et Marie, mais il dit à Marie une bénédiction qui va l'accompagner durant cette souffrance et qui va lui apporter le réconfort, l'espérance et le bientôt. Et nous allons regarder ensemble le réconfort. C'est dans Jean 19, le verset 25 à 27. Près de la croix de Jésus, Jésus était sur la croix, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus est en train de souffrir sur la croix. Et en même temps, il donne du réconfort. Marie, regarde. Regarde, Marie. Jean va te prendre chez lui pour t'apporter le réconfort. Pourquoi Jean? Pourquoi il n'a pas demandé à Pierre? Pourquoi pas André, Philippe, Matthieu? Pourquoi Jean? Jean était celui qui se reposait sur la poitrine de Jésus-Christ. Jésus était le réconfort de Jean. Et maintenant, Jean est celui qui peut apporter du réconfort à Marie. Marie, viens te reposer sur moi. Marie, viens, on va prier ensemble. Marie, viens, on va enseigner ensemble sur l'espérance. Viens, Marie, près de moi. Et je sais, du moins pour moi, mais je crois qu'on est tous les mêmes, quand ça va pas dans notre vie, on n'a envie de voir personne. On comprend cela. On veut être seul. Et pourtant, Jésus dit à Marie, voilà ton fils. C'est lui qui va prendre soin de toi. L'Église est le lieu de réconfort. Nous pouvons nous appuyer sur les uns et sur les autres. Ensemble, nous pouvons nous enseigner. Nous enseigner pour nous accompagner vers l'espérance. Nous sommes la bénédiction pour l'un et pour l'autre, pour mon frère, pour ma sœur. Nous sommes la bénédiction. Et c'est vrai, comme il disait un frère, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu un frère qui disait cette image. Voilà que ton fils tombe, soit en vélo ou en courant. Tu vas vers lui, tu regardes ce qui se passe et tu lui dis, ça va aller, ça va aller. Soit tu le soignes toi-même, soit il faut aller aux urgences et tu lui dis, ça va aller. C'est pas parce que tu vas lui dire, ça va aller, qu'il a plus mal. La douleur, elle est toujours là. La souffrance, elle est toujours là. Mais tu veux lui dire, ça va aller. C'est ce que tu veux faire pour ton frère et ta sœur. Ça va aller. Mais tu sais que la douleur est là. Alors, on doit faire attention à ne pas être les amis de Job. Ils veulent expliquer la souffrance. Tu vois, Job, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Une double souffrance pour Job. La souffrance, on ne sait pas l'expliquer. Mais on s'est donné du réconfort. Être à côté de lui. Les amis de Job disaient des bonnes et des bonnes choses. Des vérités. Mais ces vérités, ils les ont mal appliquées. Des vérités, mais qui sont mal appliquées. Je donne cet exemple que j'ai entendu. Il avait un mendiant en pleine ville qui criait « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» Tout le monde le regardait. Et à un moment donné, il s'arrête devant une personne et il dit « J'ai faim !» Et cette personne lui dit « C'est normal que tu aies faim, il est midi. » Une vérité qui est mal appliquée. Et parfois, on prend des versets pour essayer de réconforter, mais qui sont mal et qui sont mal appliqués. Le réconfort, c'est d'être à côté de lui. Passer du temps avec lui, l'enseigner, l'encourager et prier. Alors nous allons voir que dans ce réconfort, il y a l'espérance. Et on va lire Marc au chapitre 16. Le verset 1. Et après, on va lire les versets 6 et 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ces femmes ne savaient pas que Jésus est ressuscité. Ils partent pour aller embaumer Jésus. Et voilà qu'ils arrivent. Et là, on va lire au verset 6 et 7. Il leur dit, c'est un ange certainement, qui leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié et il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. La résurrection, c'est le centre de notre vie. Pour chaque croyant, c'est le centre de notre vie. Et voilà la grande différence du chrétien et du non-chrétien. La résurrection nous apporte l'espérance pour chaque croyant. L'espérance change notre tristesse. L'espérance change notre façon de voir le monde, la façon de vivre. L'espérance change notre passé, notre présent, notre futur. Je suis appelé à regarder vers l'espérance. Jésus a connu la mort. Nous allons connaître la mort. Jésus a connu la résurrection. On va connaître la résurrection. On l'a cité dimanche dernier et les autres dimanches. J'aime ce verset d'Éphésiens, qu'il est dit, nous sommes assis déjà dans les lieux célestes. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril. C'est quoi le 16 avril? Je ne sais pas non plus. Mais je sais une chose, il est 11h presque 30 minutes, le 16 avril. Tu es assis ici à Jumé, mais tu es assis dans les lieux célestes. Oui, le 16 avril, tu es ici, mais tu es dans les lieux célestes. Le croyant est passé de la mort à la vie. Et tous ceux qui sont décédés sont assis dans les lieux célestes. Avec qui? Avec Jésus. Et ils attendent ce nouveau corps. Et ils se disent, c'est fini la maladie. Toutes ces maladies passagères, ces maladies graves. Fini le cancer. Fini les hernies. Fini les douleurs de tête, ces migraines. Fini les handicaps. Fini la mort. Un nouveau corps. Un corps qui fonctionne correctement. On n'a jamais connu cela. On n'a jamais connu un corps qui fonctionne correctement. Dieu va nous faire connaître ce corps qui fonctionne correctement quand il a dit « ça c'est bon » quand il a créé l'homme. « Ça c'est bon » on ne l'a jamais connu. Adam et Ève ont connu ce corps qui était bon. Un corps sans péché, sans mort. Un corps physique et glorieux. Ils attendent cela. Tous ceux qui sont décédés, ils attendent ce corps. Jusque quand, Seigneur? Jusque quand? Pourquoi le dimanche on se rassemble ici à Jumé? Vous allez tous me répondre, et c'est une bonne question, pour adorer notre Dieu. Et c'est vrai. Mais c'est un avant-goût du ciel. Sauf si vous êtes près de moi. Vous allez dire, oh Gino, arrête de chanter. Mais un jour, je ferai un concert dans les cieux avec Anthony. Et nous serons tous ensemble. Un frère disait, Pour l'instant, nous sommes sur Zoom. On ne peut pas se serrer, on ne peut pas se toucher. Mais l'espérance nous donne qu'un jour on sera avec Christ et nous serons avec nos frères et sœurs qui sont décédés. Bien sûr, je serai assis à côté de Myriam, mais à côté de moi, il y aura peut-être Abraham, Isaac, Jacob. Et certainement à côté de Jean. L'espérance nous apporte le bientôt. Jésus nous dit, bientôt, je reviens. Bientôt, qui veut nous dire notre mission. Le bientôt, c'est notre mission. Dans Matthieu, au chapitre 28, il est dit à les 11 disciples, mais je crois aussi qu'il y avait toutes les femmes qui étaient là. Les 11 disciples ne limitent en rien le nombre de personnes qui étaient là. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le bientôt, c'est allez, vous avez une mission. Et j'aime vraiment cette histoire de Luc au chapitre 7. Jésus est en train de marcher. Et quand il marche, il y a ses disciples à côté de lui et une grande foule avec lui. Et il marche. Les disciples ne savent pas où Jésus marche. Et ni cette foule. Mais Jésus seul sait où il va. Et il marche. Et de l'autre côté, il y a une femme qui marche. Mais il y a une foule derrière elle. Et voilà qu'il y a une rencontre. Cette femme, nous dit le texte, c'est une veuve que l'épée a transpercé son cœur. Son mari est décédé. Et à l'époque, c'était grave. Parce que le mari prenait soin entièrement de sa femme. Il y avait vraiment une douleur dans son cœur. Et elle marche. Et Jésus marche avec cette foule. Pourquoi elle marche? Parce qu'elle avait un fils unique qui est décédé. Et elle s'en va au cimetière. Une double épée qui transperce son âme. Je sais pas si on peut représenter ça dans notre cœur, la douleur de cette femme. Et Jésus va vers cette femme. Et ce texte, c'est vraiment beau. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Mais Jésus dit une parole. Il dit à la femme, ne pleure plus. Ne pleure plus. Et il touche le cercueil. La foule qui était derrière la femme, il s'arrête. Jésus dit au jeune homme, lève-toi. Et il commence à parler. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Il y a le réconfort et il y a l'espérance. Et le monde qui est en l'entour de nous marche. Et nous marchons. Et il y a cette rencontre. Et on veut apporter ce réconfort et cette espérance que Jésus peut arrêter ce monde qui souffre et dire, arrête de pleurer. Lève-toi. Et ensemble, on pourra crier comme cette foule. On n'a jamais vu cela. Le bientôt, c'est la mission Beaucoup de personnes ont été transpercées par cette épée dans leur cœur, dans l'âme. Et Jésus a une parole de réconfort et d'espérance pour le monde entier. Et Jésus continue, il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Une vie de disciple, c'est une vie de souffrance. Comme Jésus a connu la souffrance, le disciple va connaître la souffrance. Comment vous allez agir quand elle vient, cette souffrance? On n'est jamais, jamais assez préparé pour connaître la souffrance. Mais Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le réconfort, Jésus est au milieu de toi. Dans l'espérance, Jésus est avec toi pour te donner l'espérance. Jésus est avec toi dans le bientôt, dans ta mission. Il est avec toi. Alors, mes frères et sœurs, soyons cette semaine comme Siméon. J'attends le retour de Jésus. Je suis là en train d'attendre le retour de Jésus avec l'Église, dans l'Église et hors de l'Église. Parce que je suis la bénédiction que le monde est entour de moi. Siméon pouvait bénir ces personnes qui étaient en l'entour de lui. Vous êtes la bénédiction. Vous êtes important. Vous êtes le réconfort. Vous êtes l'espérance. Vous êtes le bientôt. Que le Seigneur nous aide. Amen.